minutieusement informé, technologiquement outillé, conscientisé aux problématiques de son époque. Philippe-Vincent Foisy. Il expose tous les côtés des affaires publiques. Santé, économie, culture, politique. Peu importe les enjeux, il s'intéresse à tout. Philippe-Vincent Foisy. Cube Radio.
Cube Radio. Jeudi 20 janvier, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien ce matin. Matin encore froid, là. Je veux dire, je pense que cette semaine, tous les matins vont commencer de cette façon-là. Je regarde les prévisions météo, puis on a du froid au moins jusqu'à samedi. Moins 13 ce matin, moins 22 avec le vent. Cette nuit, moins 26. Demain, 18, moins 18 en fait, avec du soleil. On va avoir moins 27 la nuit prochaine aussi. Du froid encore jusqu'à samedi avec du soleil. Dimanche, nuageux, moins 9. Là, ça va peut-être vous donner un peu d'espoir pour la fin de semaine qui approche à grands pas. Ce matin, pas de bonnes nouvelles nécessairement. On parle d'inflation, coût de la vie dans le Journal de Montréal. C'était les chiffres de Statistique Canada hier là, qui indiquaient notamment que l'indice du prix à la consommation a augmenté de 3,4%, 3,8% au Québec. En 2021, on n'avait pas vu ce genre de hausse-là depuis 1991. Donc, pas mal partout, on est en train de penser à comment on va gérer cette inflation-là, comment on va mettre en place des mesures justement pour essayer de calmer cette inflation qui dépasse la cible que la Banque du Canada s'était fixée. Ça va se traduire par des hausses des taux d'intérêt. À quel point on voit des projections de certaines banques ce matin, ça risque de pas mal augmenter. Sur le front de la COVID, il y a peut-être des bonnes nouvelles, mais pas au Québec. En Ontario, le gouvernement pense à lever certaines mesures bientôt, mais pas pour le moment, notamment d'augmenter la capacité des restaurants de 50%. Le Royaume-Uni aussi là, pense lever certaines mesures, quoique Boris Johnson en ce moment est pas mal dans la tourmente. Est-ce que c'est vraiment à cause de la COVID ou de la politique? Ce n'est pas nécessairement très clair. Du côté du Québec, confusion pour les parents à l'école. Dans le Journal de Montréal, on a préparé un petit guide et ça vaut la peine d'aller le lire là, parce que c'est vrai qu'on peut être un peu confus. Qui fait quoi, quand, comment, à l'intérieur de la famille, quand il y a quelqu'un qui tousse, quand il y a quelqu'un qui a le nez qui coule, quels sont les symptômes. On a les directions d'école dans Le Devoir ce matin qui se plaignent du fait que le fait de voir deux fois par semaine, faire des statistiques sur qui manque, le nombre d'élèves absents, c'est compliqué, ça sert pas nécessairement à grand chose. À Montréal, il y a des parents qui ont su un algorithme de gestion des cas confirmés des personnes symptomatiques et de leurs contacts domiciliaires. Sincèrement, vous regardez ça, ça donne mal à la tête. Alors c'est pour ça que je vous ai allé voir dans le Journal de Montréal là, des questions assez simples. C'est quoi les symptômes? On le dit, fièvre, toux, mal de gorge, nez qui coule, congestion nasale. Quand mon enfant peut aller à l'école, il peut y aller s'il y a juste un symptôme. À quel moment il doit rester à la maison, s'il y a de la fièvre ou s'il y a deux symptômes. Si on a des tests rapides, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? S'il est vacciné, qu'est-ce qu'on fait? Donc, assez simple de voir beaucoup plus clair là-dedans, là, parce que sinon, avec les beaux graphiques qu'il y a des gens, ministères, qui ont dépensé de l'argent et du temps pour faire, peut-être qu'on était mieux d'avoir une petite question-réponse assez simple, comme on a dans le Journal de Montréal ce matin. Dans la presse, on apprend fraude vaccinale. Vous vous souvenez, on disait des faux passeports vaccinaux, ouais, ça risque d'arriver. Ben finalement, ça semble assez facile. Il y a un homme qui se confie au journaliste de la presse, qui dit, moi je l'ai fait pour l'argent, c'était super simple. En fait, c'était très très simple. On rentrait dans le système, on était capable d'inscrire une date, un vaccinateur, un lieu, bing bang, on envoyait un passeport vaccinal. On faisait de l'argent avec ça et aucune accusation pour le moment. Mais on nous montre au moins que ça quand même semble-t-il, était facile à repérer ce genre de fraude-là. On travaille là-dessus pour voir à quel moment il y aura des accusations et s'il y aura d'autres arrestations. Et sur la scène internationale en Ukraine, guerre possible en Ukraine selon Justin Trudeau, c'est ce qu'il craint. Joe Biden hier disait qu'on risque peut-être aussi d'en arriver là. Il pense que Vladimir Poutine va tester l'Occident, qu'il va rentrer en Ukraine d'une manière ou d'une autre. Après ça, va falloir faire quelque chose, dit-il. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est la grande question. Il évoque un possible désastre économique et humain pour la Russie s'il devait rentrer, mais on s'entend, des lignes rouges, les États-Unis en ont déjà mises. Puis on n'a pas vu grand-chose à ce sujet-là. Maude, bonjour!
Salut!
On parlait de vaccination, histoire assez bizarre, là, un militaire déployé pour les opérations contre la pandémie qui a été arrêté en plein centre de vaccination.
Ouais, c'est assez troublant. Alexandre Matheson, un homme de 20 ans qui est accusé d'avoir leurré une adolescente de 13 ans qui l'aurait ensuite agressée sexuellement. Donc, les gestes se seraient déroulés de décembre 2020 à novembre dernier. Plusieurs rencontres entre le militaire et la jeune adolescente. Et c'est à ce moment-là que les crimes sexuels auraient été commis. La victime aurait réalisé que la situation, elle n'était pas normale. Donc, elle a contacté les autorités. Et il y a une enquête là, qui a été déclenchée immédiatement. L'homme qui a rapidement été identifié. Il a été arrêté mardi à la clinique de vaccination, justement, où il était déployé. Et il a comparu hier en uniforme militaire. Là, donc, on y a vraiment passé les menottes. Puis, c'est là que ça s'est passé. La couronne s'est opposée à sa remise en liberté. Il doit revenir à la cour là, aujourd'hui.
Et là, on a plus de détails sur le Paxlovid, médicament contre la COVID. On se demandait un peu à quel endroit on va pouvoir l'avoir. Ça va être déployé dans une cinquantaine de pharmacies.
Ouais, même si les doses vont être réservées aux personnes qui sont à risque, ben il y a des pharmaciens qui sont déjà sollicités autant par des patients que par des médecins pour savoir s'ils ont droit aux médicaments ou s'il y a des doses de disponibles. Tu sais, c'est seulement dans une cinquantaine de pharmacies là. C'est pas la mer à boire, puis c'est pas si facile que ça. Tu sais, vous vous présentez pas pour aller
c'est
chercher
pas comme un
du test Paxlovid.
Rapide, là.
Non, vraiment pas. Puis déjà ça, c'est assez compliqué là. Mais le président en fait de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoît Morin, il dit on se fait déjà achaler, mais tu sais c'est comme ça. On est au bout de la chaîne, donc ça vient avec. Selon lui, ces appels-là sont carrément inutiles parce que la décision au final d'offrir le traitement, elle est prise par l'hôpital. Puis après ça, on peut se présenter pour aller chercher le Paxlovid. Donc étant donné qu'il y a une faible quantité de doses, on parle à peu près d'une cinquantaine de pharmacies qui vont préparer 4 ordonnances par jour environ. Benoît Morin dit c'est pas mal de trop pour pas grand-chose, mais il y a certains qui voulaient le faire par mission sociale. Le Québec va recevoir 6200 doses environ pour les prochaines semaines. Et pour être efficace, la pilule qui a été développée par Pfizer, elle doit être prise dans les 5 jours qui suivent l'apparition des symptômes. Donc, il faut être assez rapide là, à contacter, l'on dit, l'hôpital pour avoir pour que le dossier soit évalué puis qu'on puisse administrer ce traitement-là. Le médicament pourrait éviter là, jusqu'à 89% les risques d'hospitalisation. Quand même.
Sinon, toujours dans le dossier des médicaments anti-COVID, on a davantage de détails sur la colchicine qui n'est pas très efficace finalement.
Pas tellement. L'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill a publié une compilation hier sur l'efficacité de 8 traitements qui existent présentement pour atténuer l'impact du virus. Donc, le moins efficace, c'est la colchicine. Bon dernier, un produit sur lequel l'Institut de cardiologie de Montréal a mené une étude l'année dernière. On avait beaucoup d'espoir pour la colchicine. On a présenté ça en grande pompe. C'était comme la nouvelle affaire, grosse nouvelle affaire. Mais finalement, non. Selon l'étude, elle permettrait d'éviter une hospitalisation, oui, sur 87 patients traités. Et le traitement le plus efficace, qui est le Paxlovid dont on vient de parler, on parle d'une hospitalisation évitée sur 24. Donc, c'est quand même...
C'est pas mal 4 fois plus. À peu près.
En deuxième et troisième place, on retrouve des traitements presque aussi efficaces. Donc, le Sotro, je savais que j'allais le manquer. Le Sotro, tu sais, quand tu vois le train arriver, le Sotrovimab et le Remdesivir.
Bravo.
Donc, ces deux traitements-là, par contre, le petit inconvénient, c'est qu'ils sont plus chers. On parle de 52 000 $ par traitement.
Hey boy!
Ouais.
Paxlovid,
ouais.
Je trouvais ça cher à 800 $ à peu près. 900,
ouais, 8-900, mais non.
50 000 $
Ouais.
Eh hey boy!
Un petit désavantage.
OK. Sinon, le patron, là, on en avait parlé il y a quelques semaines, qui a licencié 900 employés sur Zoom. Il est de retour.
Oui, le patron de l'entreprise Better.com, vous en avez sûrement entendu parler en décembre dernier. Ça avait fait les manchettes un petit peu partout dans le monde parce qu'il avait renvoyé 900 employés par vidéoconférence. Donc, tout le monde qui était dans le Zoom, lui, de juste dire, ben si vous participez à cet appel-là, c'est que vous faites partie du groupe des malchanceux qui sont licenciés. C'était assez net, fret, sec, direct.
Ça manquait de classe et d'humanité.
Oui, pas mal. Il s'était excusé, mais il semblerait qu'il n'a jamais démissionné finalement de son poste après la controverse. Il aurait plutôt seulement pris un congé sans solde pour réfléchir sur la notion de leadership, reconnecter avec les valeurs de la compagnie. Et il a travaillé aussi avec un coach de direction.
Bon.
Donc, c'est ça qu'il a fait pendant son congé d'à peu près 1 à 2 mois. Le conseil d'administration de la compagnie a annoncé la nouvelle du retour du PDG aux employés mardi. On sait pas trop comment ça a été pris. Il avait ensuite été il a aussi présenté là, ses excuses, a reconnu la brutalité de sa méthode, autant en décembre que durant l'annonce là, de son retour. Voilà, c'est ça.
Mais c'est bien, il y en a qui sont chanceux dans la vie.
Ouais.
Il manque de classe comme ça, d'humanité.
Un petit congé, puis on est de retour, il n'y a pas de problème.
Oui, j'ai fait de l'introspection, j'ai suivi les cours, j'ai consulté, j'ai un coach, voilà. C'est utile des coachs ce temps-ci. Merci beaucoup, Maude.
Bye.